Tamani, voici nos informations en français.
Vous êtes à l'écoute de Studio Tamani, il est 8h, bonjour et bienvenue, voici les titres de cette édition matinale. Après l'attaque de Sonko dans la région de Badjangara qui a fait plus de 30 civils tués, les autorités promettent des mesures pour mieux sécuriser la zone, mais pour des spécialistes sécuritaires, il faut revoir la stratégie de guerre. La publication des nouvelles dates des assises nationales est un événement pour certains partis politiques, pour d'autres, ces rencontres sont plus que nécessaires. Profiter du sport pour résoudre le tissu social, c'est l'objectif visé par une course marathon. Plusieurs jeunes inscrits à la compétition sont arrivés ce dimanche à Ségou. Les détails dans ce journal qui vous sera présenté par Assetou Kanté, mise en onde Nohom Djiré. Plus de 30 civils tués, 17 autres blessés et un camion complètement calciné. C'est le bilan officiel d'une attaque armée perpétrée vendredi dernier par des individus armés non identifiés contre des forains. L'incident s'est produit à la gare de Sonko, localité située à une dizaine de kilomètres de Badjangara. Plusieurs organisations condamnent cette attaque et demandent des actions vigoureuses pour sécuriser les populations. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Un calme précaire régnait ce dimanche à Sonko, deux jours après l'attaque qui a coûté la vie à 31 civils. Les habitants de la localité disent être toujours sous le choc. Certains d'entre eux se disent rassurés par le ratissage effectué par l'armée malienne dans la zone. Toutes les dispositions seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique, rassurent les autorités de la transition. Celles-ci présentent aussi leurs condoléances aux familles endeuillées. Un deuil de trois jours a été décrété par le président de la transition à partir de ce dimanche 5 décembre 2021. L'objectif est de rendre hommage aux victimes. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme condamne cet acte qu'il juge horrible et d'une atrocité sans précédent. L'organisation dit apporter son soutien aux forces armées maliennes contre les forces obscures. La MINUSMA, quant à elle, appelle à une mobilisation accrue pour la stabilisation du centre du Mali. Son chef El Ghazim Wane réaffirme l'engagement de la mission onusienne au Mali à œuvrer davantage pour la protection des populations civiles.
Et notons que ces événements surviennent alors que des dizaines de familles ont fui la commune rurale de Tasiga pour se rendre à Ansongo, dans la région de Gao. Des hommes armés non identifiés ont fait éruption vendredi dans la localité. Ils ont sommé les populations de quitter la commune sous peine de représailles. Il faut prioriser la protection des populations et non la lutte exclusive contre le terrorisme. C'est ce que recommande Ibrahim Maïga, chercheur indépendant sur la question de paix et de sécurité au Sahel. Pour M. Maïga, ces pics de violence au centre du pays sont habituels, d'où la nécessité pour l'armée malienne de changer de stratégie. Il est joint au téléphone par Issa Omar Togola.
La couverture sécuritaire au Mali reste encore très limitée. Donc cela conduit à des attaques disséminées un peu partout sur le territoire sans que l'armée souvent ne puisse réagir ou quand elle réagit, elle le fait. Il y a aussi peut-être un changement de paradigme à opérer. Aujourd'hui, clairement, la priorité numéro un des autorités, en particulier des forces de défense et de sécurité, tourne autour de la lutte contre le terrorisme. Donc la priorité, clairement, aujourd'hui, doit être donnée à la protection des populations civiles et non plus exclusivement à la lutte contre le terrorisme, qui est, de mon point de vue, une impasse non seulement conceptuelle, mais aussi opérationnelle.
8h passées de 3 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La problématique de l'éducation au Sahel au cœur du sommet de Nouakchott. La rencontre entre les autorités des pays membres du G5 Sahel et la Banque mondiale s'est tenue ce dimanche en Mauritanie. Le premier ministre malien y a participé. Choguel Kokala Maïga en a profité samedi pour échanger avec les Maliens vivant en Mauritanie. Depuis vendredi dernier, les nouvelles dates de la tenue des assises nationales de la région connue. La pertinence de la tenue de ces concertations divise toujours la classe politique. Pour certains, c'est une occasion pour avoir plus de consensus. D'autres jugent ces rencontres d'une opportune. Ali Cissé nous fait le point.
Pour Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema, le gouvernement n'est pas de bonne foi dans sa démarche d'inclusivité. Il juge d'un non-événement la tenue de ses assises.
Il y a des choses qui ont été demandées, rien n'a été fait sur ces questions. Nous avons demandé de déconnecter les assises, le chronogramme, le délai de la transition. On n'a pas eu de réponse. Nous avons demandé à ce que le chronogramme soit publié avant le début des assises. Nous n'avons pas eu de réponse. Si vous engagez des discussions avec un groupe de partis politiques, la moindre des choses, c'est de revenir leur dire, voilà, on peut faire ça, on n'a pas pu faire ça. Proposer une nouvelle date, il y a la sincérité, mais rien de tout ça n'a été fait. Nous les jugeons toujours inopportunes.
Tel n'est pas le point de vue de l'Alliance pour la République, APR. Selon son responsable, ces assises sont utiles pour avoir un large consensus. Omar Ibrahim Touré, président de l'Alliance pour la République.
Moi, je crois qu'elles sont vraiment opportunes parce qu'en réalité, toutes les deux fois que les assises avaient été repoussées, c'est pour davantage aller vers un consensus beaucoup plus large, chercher ce qu'on appelle l'inclusivité. Je crois que c'est une très bonne chose. Un des grands chantiers pour nous, c'est les assises nationales de la refondation. Nous allons participer et nous allons contribuer de façon positive.
Du côté des autorités, on estime que ces concertations permettront d'établir un calendrier pour les prochaines élections.
Et à ces assises s'ajoute la question de la loi électorale. Pour des observateurs, le projet requiert un large consensus. Ils l'ont fait savoir ce samedi au cours d'une conférence de presse organisée par la mission d'observation des élections au Mali et la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Les organisateurs en ont profité pour saluer les innovations faites dans le dit projet adopté en Conseil des ministres le 24 novembre dernier. Dramane Maïga nous en dit plus.
Pour éviter les crises post-électorales, il est nécessaire de revoir la loi électorale. Tel est l'avis de certains observateurs présents à la rencontre. En plus de la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, il recommande la publication progressive en ligne des résultats dans les centres et les bureaux de vote. Dr Ibrahima Sango, chef de mission de la Model Mali.
Il y a des avancées significatives à améliorer. De prendre en compte la publication en ligne des résultats des scrutins par centre et bureau de vote au fur et à mesure de la proclamation provisoire et non après les 5 jours contenus dans les articles 156, 171 et 179.
Du côté de la COSEM, ses responsables plaident pour un consensus sur la loi électorale. Il en est de même pour les Assises nationales de la Refondation, Salia Kariba Traoré, représentant de la COSEM.
Toutes les parties, y compris nous-mêmes, a œuvré dans le sens du dialogue pour qu'il puisse y avoir encore un large consensus avant l'adoption de cette loi électorale. Les assises pourront permettre à ce que nous renforçons nos institutions et également notre démocratie, pourquoi pas.
Concernant les assises nationales de la Refondation, elles sont prévues du 11 au 30 décembre 2021. Mais pour l'instant, aucun chronogramme n'est défini pour les élections.
Selon le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, cite la prolongation de la durée de la transition. Le mouvement a lancé une pétition pour que les autorités de la transition aient 2 ans pour baliser le terrain. Zanga Goïta, coordinateur de Fusi Mali, est joint au téléphone par Mariam Kamba Keita.
Le Mali aujourd'hui est en état de guerre contre les bandits armés qui occupent des parties du territoire. Ces parties ne sont pas sous contrôle de l'État. L'État imparti à la transition ne permet pas de réconcilier le peuple malien meurtri par les guerres fratricides. C'est pourquoi Fusi Mali a lancé une pétition. On est parti à la conquête du peuple. Au résultat de la pétition, nous avons eu 4 295 305 signatures au total. Le Mali est entre les mains des hommes politiques depuis 1992. Et le résultat auquel nous avons atteint aujourd'hui, et qui n'est pas un résultat honorable, c'est la faute des hommes politiques aujourd'hui. Maintenant, tous ceux qui veulent que le pays avance sont d'accord avec la prolongation de la durée de la transition.
Je vous l'annonçais dans les titres du sport pour rétablir la paix. Tel est l'objectif fixé par le Grand Trail ou la course à pied des jeunes maliens. Les participants à cette compétition marathon sont arrivés à Ségou ce dimanche. Ils profitent de l'occasion pour diffuser des messages de cohésion sociale et d'unité, rappellent les responsables au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Diakari Diadjakite, président du comité de pilotage du Grand Trail, est joint au téléphone par Aboubakrine Ag Mohamed Niatara.
L'étape Bamako-Ségou s'est composée de 5 arrêts. Nous avons pris le départ mercredi 1er décembre pour faire Bamako-Moribabougou. Premier arrêt, Moribabougou-Pont-Kayo. Deuxième arrêt, Pont-Kayo-Koulikoro. Troisième arrêt, Koulikoro-Fana. Quatrième arrêt, Fana-Konobougou. Cinquième arrêt. Et aujourd'hui, l'objectif final, c'est d'atteindre la ville de Ségou. Ils sont déjà en cours de route pour arriver à Ségou d'un moment à l'autre. Ils sont 64 coureurs qui sont déjà en course. Donc, pour signaler leur arrivée à Ségou dans une heure de temps. Et Dieu merci que jusque-là, aucune difficulté à rencontrer. Les coureurs sont au point, les dispositifs sont en place, techniquement tout est bien coordonné et le dispositif sécuritaire est en marche.
Faisons à présent le point de la COVID-19 au Mali. À la date du dimanche 5 décembre 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 103 nouveaux cas positifs, 75 patients guéris et un décès. La situation cumulée est de 17 915 cas positifs, dont 15 298 patients guéris et 618 décès. À présent, place à la rubrique Actu COVID, présentée par Aïssata Diarra.
Tamani. Une campagne d'information et de sensibilisation sur la COVID-19 a démarré lundi 29 novembre 2021 à Yanfolila. C'est une initiative du comité de pilotage de la crise sanitaire dans le sac de Yanfolila. Selon les responsables du comité, les zones ciblées sont les aires de santé, les sites d'orpaillage, les lieux de culte et les écoles. Awa Berthe nous en dit plus.
L'objectif de ces 3 mois de campagne est d'inciter la population à se faire vacciner. Dr Abdrahamane Traoré, point focal COVID-19 au district sanitaire de Yanfolila.
Vu les lenteurs constatées par rapport à la vaccination et l'augmentation du nombre de cas de COVID au Mali, c'est ce qui nous a poussé d'organiser avec les services de développement social, la préfecture et l'ensemble des membres du comité de pilotage à organiser cette journée d'information.
Des habitants de Yanfolila estiment que leur réticence à se faire vacciner découle des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
À travers des réseaux sociaux, les gens sont effrayés par rapport à ces vaccinations.
C'est par manque de confiance. Et puis, les gens parlent des effets secondaires post-vaccination.
Disons la vérité, moi, 15 ans, je n'avais pas compris. Je pensais que la vaccination amène d'autres maladies. Mais maintenant, j'ai compris que c'est une bonne chose.
Les initiateurs de cette campagne demandent l'accompagnement de la population pour la réussite des activités.
À présent, place à la question d'auditeur. La réponse vous sera donnée par Dr Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Faut-il porter un masque quand on fait du sport?
On n'est pas obligé, sauf si les conditions du sport nous l'exigent. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, ce n'est même pas nécessaire. Le sport cherche quelque chose et les cellules ont besoin d'une bonne oxygénation. Et le masque va vous priver de cette bonne oxygénation. Sauf si vous êtes contraint de porter le masque parce que vous rentrez dans un sport où il y a le contact physique, il y a le rapprochement avec d'autres personnes dont les statuts sont les mêmes, alors il faudrait porter votre masque.
Ainsi prend fin ce numéro. Merci pour votre confiance. Respectez les mesures barrières pour vous protéger de la COVID-19.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, 4 obus ont été lancés contre le camp militaire de la MINUSMA samedi soir à Ansongo. De source locale, il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni de blessés. 2 individus armés non identifiés ont attaqué 2 commerçants à moto sur le tronçon Bourem-Gao. Pour des témoins, le bilan est d'un blessé grave et un léger. Les mêmes sources rapportent qu'une somme de près de 300 000 francs CFA et une moto ont été emportées. La situation est calme à Ségala et dans toute la contrée dans la région de Kaya. Il y a 4 jours, des manifestants avaient bloqué le trafic entre Bamako et Kaya. Ils dénonçaient la gestion d'une affaire d'assassinat d'un paysan par la gendarmerie et la justice. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans quelques minutes. Ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Aissata Diarra. Mais avant tout de suite, le magazine. Dans la région de Bougouni, les sensibilisations pour lutter contre la coupe abusive du bois ont permis à certains habitants de changer de mentalité. Ceux-ci disent avoir compris les conséquences de cette pratique sur leur vie. Le magazine Parlons de l'environnement de ce jour s'intéresse à ce sujet. Il est réalisé par Juliette Koulibaly et Fatia Tara.
Le magazine Parlons de l'environnement. À Bougouni, des habitants de la localité se disent conscients des conséquences de la coupe abusive du bois. C'est notre survie qui est menacée si on n'arrête pas, témoignent certains d'entre eux au micro de notre envoyé spécial de retour de Bougouni, Juliette Koulibaly.
On a compris que si l'on ne cesse pas, on va finir par perdre beaucoup d'espèces. Il n'y aura plus de pluie. Et sans la pluie, il est presque impossible de vivre.
Moi, j'estime qu'il faut absolument abandonner la coupe des arbres. Nous, on a cessé ces activités car l'État nous a contraints de le faire.
On a constaté que nos arbres sont finis. De nos jours, même pour faire un petit hangar, c'est un problème. car il n'y a plus de bois.
On a nous-mêmes compris que sans les arbres, il n'y aura plus de pluie.
On a compris aujourd'hui l'utilité des textes en faveur de la protection de l'environnement, indique Chaka Doumbia, président du bureau local de la Fédération des exploitants forestiers de Bougouni.
Quand on nous proposait l'application de ces textes, on a beaucoup souffert. Nous étions très mécontents et remontés contre l'idée. Mais après, on a compris ses enjeux et sa portée. L'idée, au fait, c'était que l'on plante autant d'arbres que nous coupons. Soit la coupe de 10 000 arbres sur une période de 10 ans. Et puis quand c'est épuisé, c'est fini. Il faut préciser qu'il y a des zones interdites.
Ces avancées sont quelque part les résultats des politiques élaborées par l'État, souligne le chef de cantonnement des eaux et forêts de Bougouni. Capitaine Seydou Daou rappelle différentes actions qui ont été menées dans ce sens.
Les plus hautes autorités du pays ont initié depuis plusieurs années maintenant beaucoup de réponses, dont la principale, le reboisement. C'est pourquoi le cantonnement des eaux et forêts de Bougouni a programmé depuis 3 ans maintenant le reboisement sécurisé en grillage autour de toutes les parcelles qu'il plante. Pendant l'hivernage, il y a ce qu'on appelle la campagne de reboisement qui est lancée, donc avec la participation de tous les services techniques du cercle de Bougouni, la société civile, l'ensemble de la jeunesse et les femmes de la CAFO. Donc beaucoup de messages de sensibilisation, des messages d'appel à la protection de l'environnement.
Les changements de mentalité des populations arrivent à point nommé, ajoute capitaine Seydou Daou. Il décrit une situation alarmante des forêts de Bougouni.
Il y a les glissements de terrain, il y a les coulées de boue et des inondations souvent inattendues. Tout ça, c'est les conséquences de la déforestation. Qui parle de déforestation, on parle naturellement de la perte en végétation, même en végétation herbacée. Donc, il n'y a plus d'herbe comme il le faut. Donc, maintenant, les éleveurs sont contraints d'amener leurs animaux très loin, en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui entraîne la diminution du cheptel dans la région de Bougouni. Il y a également l'exode rural. Les terres ne sont plus fertiles, donc la productivité diminue, si bien que la pauvreté augmente.
Les experts en matière de protection de l'environnement estiment que ces changements de mentalité des populations doivent pousser les autorités à consolider les acquis. Cela passe, selon l'environnementaliste Zoumana Koulibaly, par l'appui des populations par des activités qui remplacent celles liées à la surexploitation des forêts.
La pérennisation de ces actions va obligatoirement par les mesures d'accompagnement à l'endroit de ces populations. Il s'agit non seulement de les continuer à les former, mais aussi de les initier à l'utilisation des nouvelles sources d'énergie, c'est-à-dire les sources d'énergie renouvelables, notamment l'utilisation des réchauds à gaz, foyers améliorés, et surtout la création d'activités génératrices de revenus pour un remplacement de ces activités ordinaires là que ces populations menaient.
C'est la fin de ce numéro du magazine Parlons de l'environnement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.